peuvent être distingués. Même si on dit, depuis la venue du Christ, tout amour véritablement humain devient de fait surnaturel. Je ne dirais pas ça. Je crois qu'il y a des quantités de gens qui s'aiment humainement, qui ne s'aiment pas surnaturellement. Hélas. Puisqu'il ne peut se faire que par et dans le Christ. Quand le Christ dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », Jésus parle vraiment de l'amour surnaturel. Il ne veut pas dire du tout que... Parce qu'alors il donnerait raison à Luther. Que la nature est totalement corrompue. Non. Il peut exister des actes humains qui sont bons, qui sont vertueux. Ils ne sont pas nécessairement surnaturels. De sorte qu'il existe véritablement de facto une éthique religieuse. Vous n'avez qu'à en être en Afrique. Tiens, il n'est pas là. Il est en Afrique. Vous n'avez qu'à aller en Afrique. Alors, et tout de suite que, de fait, il existe une éthique religieuse qui n'est pas nécessairement chrétienne. Mais quand regardez autour de nous, nous voyons encore dans une Europe qui a été chrétienne, qui reste de temps en temps religieuse, mais qui n'est pas chrétienne. Je crois que ça existe réellement une éthique chrétienne chez certains individus qui vivent une éthique chrétienne. Et je dirais même chez le chrétien, c'est-à-dire pour nous qui essayons de mener une vie chrétienne, chez nous, nous devons... Si nous voulons mener une vie parfaitement chrétienne, puisque la foi ne supprime pas le point de vue de notre intelligence, nous devons donc être suffisamment lucides pour comprendre ce que notre nature humaine peut réaliser par elle-même, ce que notre nature humaine peut réaliser en tant qu'atteignant le point de vue de l'acte créateur, atteignant, découvrant le créateur, donc capable de poser des actes qui sont religieux. De fait, nous n'arrêterons jamais à l'attitude purement religieuse, puisque nous sommes chrétiens et que nous voulons l'être pleinement dans notre vie chrétienne, dans notre vie religieuse. Alors on veut que l'aspect chrétien prenne possession de tout, mais ne supprime pas la nature et donc ne supprime pas le point de vue attitude religieuse, mais l'assume, le transforme. Et nous devons maintenir la distinction. Ça, Alors, autrement, on arriverait à dire que la foi supprime l'intelligence. Et que la foi me donne une intelligence, au contraire, plus nette, une intelligence plus lucide, plus pénétrante. Si je suis chrétien, je peux mieux comprendre ce qu'est la philosophie, je peux mieux comprendre ce qu'est l'éthique naturelle et l'éthique religieuse. C'est ce que nous essayons de faire. Nous savons que nous sommes tous chrétiens, nous essayons de faire cette éthique religieuse. Et je considère que ce n'est pas du temps perdu. Je considère que c'est très important. Parce que quand on rencontrera ceux qui ne croient pas, nous saurons parler leur langage. Nous saurons ce qu'on peut dire et jusqu'où on peut aller. Sans les blesser, sans avoir l'air de parler. Donc c'est important pour nous. Et pour notre propre lucidité, donc. Vous voyez, là, je dirais, faisons attention, ne disons pas que depuis l'avenue du Christ, tout amour véritablement humain devient de fait surnaturel. Une éthique purement religieuse devient de fait une éthique chrétienne. Pas toujours. Ça peut se faire que la grâce chrétienne soit donnée, la grâce soit donnée chez des âmes de bonne volonté. Ça peut se faire. Alors à ce moment-là, ils ont la grâce chrétienne, mais ce n'est pas explicitement chrétien. Alors, je reviendrai au point de départ, parce que là aussi, je crois qu'il faut bien préciser ça. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La référence à Jésus est directe, comme je vous ai aimé. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous l'avez fait. La référence au Christ est directe. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, ce sont les frères de Jésus. Donc la référence au Christ est nette. C'est à moi que vous l'avez fait. Alors, ne dise pas que l'amour envers le prochain ou la compassion envers les pauvres sont faits dans l'intention pour le Christ. Ah, je crois que c'est impliqué. Je crois que le chrétien, quand il exerce la charité fraternelle, ne peut pas l'exercer vraiment sans l'intention pour le Christ. Je ne peux pas mettre entre parenthèses le Christ. C'est-à-dire, ont pour motif le Christ. Le motif, l'intention, porte sur le mystère du Christ. J'aime mes frères dans la charité fraternelle à cause de Jésus. Et à cause de Jésus n'enlève absolument rien au fait de l'aimer pour eux-mêmes. Je dirais, je les aime pour eux-mêmes et je les aime à cause du Christ. Et les deux se tiennent. Il n'y a pas de rivalité entre les deux. Parce que le Christ n'est pas rival de l'amour. Oui.
Quand même, l'évangile, il est dit, alors les justes lui répondront, Seigneur, quand nous est-il arrivé de te voir, ma famille ? Donc ils ne savaient pas qu'ils le faisaient pour le Christ.
Oui, c'est très vrai qu'ils ne le savaient pas. C'est sûr, ils ne le faisaient pas explicitement pour le Christ. C'est très vrai, Jésus prend cet exemple-là. Mais les deux exemples que vous avez pris, ça implique le Christ. Les textes, on a choisi. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, c'est difficile de dire que le Christ est entre parenthèses. Et de dire, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi. Donc, vous reprenez cet autre texte. Je suis tout à fait d'accord que dans cet autre texte, le Seigneur souligne qu'on est tout étonné que l'ayant fait. Et c'est vrai, parce que notre intention chrétienne n'est pas assez profonde. Je suis d'accord. Bon, alors... Ne disent pas que l'amour envers le prochain ou la compassion envers les pauvres sont faits dans l'intention. Alors, tout dépend. Si je parle du chrétien, je parle du chrétien puisque je parle de l'évangile, je parle du chrétien, après on parlera du non-chrétien. Si je parle du chrétien, le chrétien doit de plus en plus aimer ses frères dans la lumière du Christ. Je crois que c'est le propre de la vie chrétienne de faire que le Christ soit pour nous le modèle, et l'intention, c'est pour lui que nous faisons tout. Alors que viendrait faire la vie religieuse où nous nous consacrons totalement au Christ? Alors la vie religieuse serait le plus grand handicap au développement de la charité. C'est ça, parce que, attendez, ce motif n'ajoute donc rien au mérite et à la récompense de l'acte. Et ce motif donne l'intention profonde, c'est parce que j'aime le prochain à cause du Christ, et par le Christ que c'est un mérite direct. Au contraire, vous voyez bien, alors là, au contraire, il semblerait enlever une certaine gratuité. Le Christ n'enlève aucune gratuité. Alors là, je refuse catégoriquement. Aucune gratuité et aucune pureté à l'acte. Oui. Ça, c'est du psychologisme. Ça. Vous avez raison, il faut le dire, parce que c'est très important de comprendre ces choses-là. C'est capital. C'est très important.
Aimer ses frères, par lui et dans lui, mais pas...
Et pas pour lui.
Enfin, pour lui.
Avec lui, en lui, pour lui. Ça, c'est pas grave. Je vois très bien ce que vous faites. Vous faites ça en fonction d'une certaine caricature de gens d'œuvre qui font tout pour l'Église et pour le Christ. Alors, il rencontre le pauvre type. Moi, je t'aime beaucoup à cause de Jésus. Tu sais, autrement, toi, vraiment, tu es souverainement repoussant. Alors, là, je suis tout à fait d'accord. Ça, c'est la caricature. Qui est une caricature du christianisme? Tout à fait d'accord. Plus les choses sont élevées, plus les caricatures peuvent exister. Parce qu'au fond, l'attitude chrétienne consiste à être un surhomme. Et c'est au fond très difficile de l'être. On est plus naturellement un homme qu'un chrétien. Alors, dans l'ordre de la spontanéité, c'est psychologique, dans l'ordre de la spontanéité, je dirais c'est très vrai. Il y a des gens qui sont d'une générosité extraordinaire et qui font ça par pure générosité humaine. Tandis que le chrétien, toujours un peu guindé. Parce que c'est surhumain, que voulez-vous. On nous demande de vivre une vie surhumaine. Nous devons aimer totalement le prochain, nous devons l'aimer dans la lumière du Christ. C'est surhumain. Il y a quelque chose de surhumain. Oui. Alors, c'est en sens ça que je dirais psychologiquement, je suis assez d'accord psychologiquement, mais je n'accepte pas ce point de vue psychologique. Parce que ce point de vue psychologique regarde uniquement le point de vue de la spontanéité de l'acte, qui dans certains cas pourra connaître cette spontanéité plus grande. Je dis dans certains cas, mais ce n'est pas ça que Dieu regarde, c'est l'intention profonde de notre cœur, et que nous aimons le pauvre dans le Christ, aimer le pauvre pour Jésus, c'est l'aimer pour lui-même, puisque c'est l'aimer comme Jésus l'aime. Or, Jésus l'aime pour lui-même et pour le Père. Et Jésus fait ça admirablement, tandis que nous ne faisons pas admirablement. N'est-ce pas ? Et alors, c'est très vrai, notre capital de vie est limité, et si nous regardons trop le Christ, alors quelquefois on regardera moins le prochain. J'ai dit quelquefois, psychologiquement. Oui, c'était l'attitude de certains qui l'ont dit ouvertement, que nécessairement le fait d'aimer le Christ nous empêchait d'aimer vraiment nos frères. Moi j'ai dit non, je ne peux pas dire ça. Ce serait contraire à tout l'évangile. Ce serait contraire à toute cette grande réalité. Alors, je continue. De même, donner sa vie pour ses amis, donc la mère de famille, si c'est un acte qui sert la vraie finalité de l'homme, cet acte est-il plus grand et méritoire avec ou sans motif du Christ ? Eh bien, si cet acte est fait uniquement au point de vue humain, il est sûrement très grand et Dieu le récompensera et donnera peut-être à la personne à ce moment-là la possibilité de croire. Dieu lui donnera peut-être le don de la foi. Ça, c'est très vrai. Mais je ne peux pas dire qu'un acte qui est fait uniquement au niveau d'une éthique humaine est aussi grand et aussi méritoire pour le ciel qu'un acte qui est fait pour le Christ. Là, je dirais que non. Quand nous le faisons pour le Christ, d'abord nous mettons bien plus de, je sais pas, nous mettons toute notre générosité. Bien plus profondément. Quand nous faisons quelque chose pour le Christ, nous nous donnons à fond. Vous voyez, vraiment ceux qui se dévouent pour les pauvres et qui le font pour le Christ, du reste, tout le monde le dit aujourd'hui. Les hôpitaux tenus par des religieux. Il y avait une autre qualité d'attention et d'amour vis-à-vis des pauvres. Et qu'on voit maintenant où c'est fait dans un régime humanitaire. Mais c'est fait avec beaucoup moins d'amour et de délicatesse. Je crois que le Christ nous affine prodigieusement et qui fait que grâce à lui et par la charité qui passe par son cœur, nous avons une qualité d'amour qui n'existerait pas autrement. Le Christ nous affine et nous donne une qualité d'amour qui fait que... Alors qu'il y ait des caricatures, je suis tout à fait d'accord. Mais là, on dirait la caricature du chrétien. Vous voyez ? La caricature... C'est comme le sourire ecclésiastique et le vrai sourire, qui soit le sourire de Dieu, du Christ. Enfin, le sourire ecclésiastique, on sait ce que c'est. Enfin, c'est la caricature. Alors, c'est la même chose, vous voyez, là, je pense à vous, pas du tout, c'est du baratin, non ? Tout à fait. Et alors, le baratin n'a rien de chrétien, hein ? Rien de chrétien. Si on enlève tout ça, il n'y a plus grand-chose. Alors, il faut y réfléchir si c'est vraiment une difficulté pour vous, parce qu'il faut essayer de comprendre comment la charité ne fait pas nombre avec l'amour humain. Dieu n'est pas un rival. Et Dieu ne peut pas être un rival. Donc ne fait pas nombre, ne peut pas s'additionner comme quelque chose qui s'oppose. Au contraire, je dirais, la charité divine est là pour intensifier. Alors, dans le cas d'un amour dont le don implique l'homme, dans toutes ses dimensions, esprit et corps, peut-on maintenir la notion du don total absolu lorsqu'il y a don de son corps à plusieurs personnes? Alors là, on retrouve, hein, ainsi ne peut-on aller plus loin qu'avec tendance et affirmer que l'exclusivité du don est une exigence de cet amour. Et ceci au niveau philosophique. Nous avions distingué la dernière fois, et je crois que c'était quand même très important à bien préciser, nous avions distingué, quand nous avions parlé de l'amour d'amitié, la distinction entre l'amour de l'époux et de l'épouse et l'amour d'amitié en dehors de l'époux et de l'épouse. Le don du corps n'existe que entre l'époux et l'épouse. Il ne peut pas exister autre part. Bien, c'est une caricature. Je crois que vous êtes très net là-dessus. Et ça, au point de vue, je dirais, philosophique, au point de vue humain, naturel. Autrement, on arrive à toutes les perversions possibles. Le don du corps, et on comprend très bien pourquoi le don du corps existe dans le mariage, à cause de la fécondité. Alors, il existe aussi à cause de l'amour, c'est évident. Mais il est impliqué dans la sagesse de Dieu en impliquant pas toute la fécondité. De sorte que lorsqu'il s'agit de l'amour humain, en dehors du mariage, il s'agit d'amitié. Cette amitié ne peut exister, je dis bien, que si elle est très spirituelle. Si elle existe au niveau passionnel, et uniquement au niveau passionnel, alors à ce moment-là, il y aura toujours un tout petit peu l'espèce de similitude par rapport à l'amour de l'épouse. C'est très mystérieux tout ça, ça demanderait de être très étudié dans l'ordre psychologique aussi, puisque là on ne touche pas du psychologique, mais il me semble que lorsqu'il n'y a plus le point de vue du mariage, un amour d'amitié ne peut se stabiliser, donc ne peut être vrai que s'il est très spirituel, au-delà des passions. Les passions existent, mais elles sont assumées, elles sont dépassées. C'est la passion qui est exclusive. C'est la passion qui est exclusive. Et la passion est exclusive. Alors ça, c'est vrai, la passion est exclusive. Et c'est pour ça que dans le point de vue de l'amitié dans le mariage, je crois qu'on aboutit là nécessairement à la même manière. Donc, au fond, à cause de ça, parce que le don du corps implique nécessairement que ce soit individuel et personnel. Et que si, de fait, le don du corps peut se faire à plusieurs, c'est au fond parce que cet amour n'est pas abouti jusqu'au bout. Et souvent n'est pas assez spirituel. Étant donné que la sensibilité qu'on a à 20 ans n'est pas la même que celle qu'on a à 40 ans et n'est pas la même que celle qu'on a à 70 ans. Les sensibilités volcaniques et passionnelles sont différentes. C'est ça très fort pour les volcans. Indispensable. La biologie seule permet de la limpidité. Mais c'est vrai que nos passions sont différentes. Elles ne sont pas les mêmes. Tandis que l'amour spirituel est le même. Et les voyages forment la jeunesse. On voit ce que ça veut dire. À cause de la sensibilité qui fait qu'on a besoin d'en douter. Si on n'a pas un amour suffisamment spirituel, on se fatigue de voir toujours la même place. Très, très fatigant. Si on s'aime suffisamment spirituellement, alors c'est pas fatigant. Parce que on creuse. On sait que la vie, après, au point de vue sensibilité, c'est fatigant. Alors vite, changeons, si on peut. Et Et ça, c'est la loi profonde de la sensibilité et de l'esprit. Alors, c'est pour ça que je crois, j'ai pensé, parce que vous en avez parlé, et c'est intéressant de se poser jusqu'où. Alors, y a-t-il une jalousie spirituelle? Vous voyez, quand on parle de Dieu qui est jaloux, une jalousie de Dieu. Dieu est jaloux. Ça, c'est vrai, c'est clair, mais il y a Dieu en quelque sorte. Je comprends très bien, c'est que Dieu veut tout. Jalousie de Dieu, c'est que Dieu veut tout parce que son amour est total. Dieu se donne totalement, entièrement, d'où la jalousie. Cette jalousie de Dieu n'est pas exclusive, puisque Dieu se donne jalousement à chacun. Et c'est pas parce que Dieu se donne jalousement à mon voisin que j'en aurai moins. Il est esprit. Et c'est le mystère de la communion qui se donne à tous et à chacun. C'est un très grand mystère, c'est le très grand mystère de l'amour divin. C'est le propre de l'amour divin. Et je crois que c'est parce qu'il est substantiel. L'amour humain implique la jalousie passionnelle au niveau de la passion. Alors ça, je dis, tout le monde est d'accord que la passion est source de jalousie. Si on n'a pas encore senti, c'est dommage. Mais si ça commencera à 45 ans, ce sera catastrophique. Il vaut mieux faire l'expérience de ce que c'est que l'amour passionnel et jaloux à 18, 20, 25 ans. C'est pas catastrophique. Mais il y a 45. Si on n'a pas fait avant. Parce qu'il y a une nouvelle sève violente, tout ça. Il y a des nouveaux printemps violents qui sont très forts. Alors, si on n'a pas fait l'expérience, on ne voit pas. On ne voit pas apparaître ça. Alors, c'est effrayant. Parce qu'on projette. Tout homme jaloux est sûr que sa femme le trompe. Tout homme jaloux, c'est comme ça. C'est une douleur. Ça ne peut pas être autrement. Ça fait partie de cette chose, parce qu'il faut qu'il justifie sa jalousie. Il y a quand même un vrai semblable de jalousie. Il faut une jalousie. Ça va très très loin. C'est une des passions les plus violentes. Hein. C'est l'amour qui veut posséder. Mais l'amour passionnel. Alors, la jalousie comme telle, elle est passionnelle. On doit lutter contre cela, parce qu'on n'a pas le droit d'aimer au niveau passionnel, si on veut rester humain et si on veut être chrétien. Donc on doit assumer cette passion pour arriver à un niveau humain. Est-ce qu'on peut parler d'une jalousie d'un amour spirituel? On va dire humain. Est-ce qu'on peut parler dans une amitié humaine en dehors du mariage? Parce que dans le mariage, même quand l'amour est très spirituel, il implique toujours le don des corps, et donc la jalousie va toujours exister. Un mari est toujours un peu jaloux de sa femme. Heureusement. Le jour où il n'est pas jaloux de sa femme, il y a quelque chose qui ne va plus. Il est toujours un peu jaloux. Jaloux, c'est-à-dire que c'est son bien. C'est ce qui fait que ce n'est pas toujours commode. Si une femme est très intellectuelle, très artiste, elle veut avoir sa liberté. Et si une femme si elle reste avec ses enfants, ça va. Tant que tu es avec tes enfants, ça ne m'inquiète pas. C'est la réflexion normale. Tant que tu es dans, mais avec ta vie d'artiste, avec ta vie de... Tu vois des tas de gens qui sont libres comme toi. Alors donc, et c'est comme si elle reprenait une vie libre en dehors du mariage. Et c'est ça qui explique les choses qui ne sont pas toujours bonnes. Mais il faut y réfléchir parce qu'on devra donner des conseils là-dessus. Et les personnes vous demandent des conseils. Et nous devons être quand même suffisamment éclairés pour comprendre comment, dans le mariage, il y a quand même quelque chose qui fait. Je ne dis pas que l'épouse doit obéir servilement à l'époux. Non, ça veut dire qu'ils sont à l'amour. Et donc l'épouse doit garder une telle liberté. Mais il faut qu'elle fasse ça avec une telle astuce, une telle intelligence, pour que de fait, oui, ça continue, l'amour continue d'exister vraiment. Vous voyez, dans le mariage, il y a toujours un peu, à cause du don du corps, il y a toujours un peu cet aspect, cet élément passionnel, et donc cette jalousie, même quand un amour est très spirituel. En dehors du mariage, je parle de l'amour d'amitié. En dehors du mariage, l'amour d'amitié doit être spirituel. Il doit être pleinement spirituel. En passion, ça ne suffit pas. La passion demeure, c'est bien évident. Dire qu'on n'est pas passionné quand on aime, ce serait ennuyeux. Très ennuyeux, les gens qui ne sont pas passionnés. Il n'y a rien de plus ennuyeux. Alors, il n'y a plus de présence. La présence implique l'aspect sensible, et donc l'aspect passionnel. On est présent à quelqu'un qui tient un certain élément passionnel, assumé par le point de vue de la charité, assumé par le point de vue de l'amour spirituel et de la charité, mais l'élément passionnel demeure, il doit demeurer. Mais je crois qu'on doit dire que l'amour spirituel, dans l'amour d'amitié, n'implique pas de jalousie. Je crois. Parce qu'on doit respecter l'autre. Vous voyez, Dieu enveloppe. C'est pour ça que je dis que c'est un amour substantiel. C'est Dieu le créateur. Alors parce que Dieu est créateur, il enveloppe complètement. Nous sommes saisis dans tout notre être. L'amour substantiel de Dieu. Et Dieu nous a créés. Et c'est celui qui nous donne son amour. Et il nous aime en nous donnant son amour. Et nous sommes objets de son amour parce qu'il nous a donné son amour. Tandis que quand il s'agit de l'autre, quand il s'agit d'une autre personne, cette autre personne existe indépendamment de nous. Elle existe. Elle a son autonomie. Et dans l'amour d'amitié, on respecte cette autonomie. Et c'est ce respect à l'égard de l'autonomie de l'autre, vous voyez, qui fait que l'amour spirituel va faire que l'autre devra garder une autonomie tout le temps. Je crois que c'est un critère d'une véritable amitié. Si l'ami est plus libre qu'avant, parce qu'il est, s'il est moins libre, s'il se sent un tout petit peu comme la souris par rapport au chat, il va me voir, qu'est-ce qu'il va dire? Alors ça va plus. Ça prouve que là, il y a quelque chose qui n'a pas cette espèce de liberté que doit donner normalement l'amour, puisque dans l'amour, on aime pour lui-même. Et donc on l'aime dans son autonomie, on l'aime dans son développement, dans sa propre découverte. Et c'est en ce sens-là que je dis le don profond au plan spirituel à l'autre. Fait qu'il doit découvrir de plus en plus son autonomie. Et la vie, le véritable amour d'amitié, ce sont deux personnes qui s'aiment dans leur autonomie. Et c'est dans ce sens-là que je crois qu'on doit dire que l'amour spirituel n'implique pas de jalousie.
Ce qui serait peut-être dans le mystère du Christ crucifié et glorifié, il y a une chose qui me touche, c'est que vous dites que comment peut-on être jaloux d'être crucifié?
Oui. Alors, c'est là, je pense que les deux sont naturels.
Ben oui, on
passe là. Vous êtes au troisième étage. Et ici, nous essayons de réfléchir sur ce que c'est que l'amour humain et nous devons le faire. Et voir si certaines choses que nous attribuons d'une façon courante, et d'où ça vient, et oui, ça s'accroche. Oui, il y avait des questions ?
Oui. Est-ce que le désir d'être aimé n'implique aucun droit sur l'ami, mais est-ce qu'il n'est pas un peu le reflet de la jalousie ?
Le reflet de la jalousie, oui.
L'ami qui donne tout attend une réponse, soit elle aussi totale.
alors que l'autre est complètement indifférent.
Complètement. Est-ce que c'est pas la même musique, mais est-ce que c'est pas le reflet?
Je dirais que c'est. Oui, c'est sûr que l'amour d'amitié appelle la réciprocité. Ça, c'est sûr. La réciprocité ne spécifie pas mon amour, mais le conditionne. Vous voyez, ce que je veux dire, hein, c'est que c'est l'autre que j'aime dans son autonomie, dans sa propre personne. C'est l'autre que j'aime. Je ne l'aime pas parce qu'il m'aime.
Mais s'il n'y a pas cette réciprocité, il n'y aura pas la communication qui fonde l'amitié.
S'il n'y a pas cette réciprocité, le conditionnement, mais je dirais c'est le conditionnement d'exercice, parce que la communication se fait de multiples manières.
Au niveau humain.
Vous avez travaillé ensemble, vous avez, voyez, le travail commun, c'est une communication.
Oui.
Le fait qu'on vit l'un à côté de l'autre, c'est une communication.
Certainement,
oui.
Mais s'il n'y a pas
cette réciprocité,
si l'autre ne répond pas.
Oui, si l'autre ne répond pas. Il y a un don. Gratuite.
Hein? C'est pas pour
l'amitié. Un don gratuit qui est une bienveillance, un don gratuit, comme tel. Et il y aura l'amitié que si on a réciprocité. Donc, c'est, je dis, c'est la condition pour l'amitié. La condition pour que l'amitié puisse demeurer et s'exercer. Et c'est
pas. Ça ne va pas changer la nature même de l'amour qu'on a pour l'autre, le fait qu'il y ait cette réciprocité.
Changer l'amour. Vous voyez, ça. Ça permet à l'amour à l'égard de l'autre d'être parfait. Ça donne une chance, il le modifie. Je veux dire, non, mais ça modifie, mais ça ne spécifie pas. C'est l'autre que j'aime. Mais c'est, évidemment, c'est très lié, ce que je dis. Le conditionnement, c'est permettre cette liberté qu'il y a quand on parle à quelqu'un avec qui on a totale confiance parce qu'on sait qu'il nous aime. En réalité, c'est ça. Quand on ne sait pas qu'il nous aime, on n'a pas une totale confiance. Mais quand on sait qu'il nous aime, on a une totale confiance. Alors à ce moment-là, naît une très grande liberté. Oui. Et cette liberté n'existerait pas. C'est par amour pour le Christ qu'il me tape. Donc, c'est cette confiance qui va se réaliser, cette confiance qui va permettre cette liberté. Oui. Et cette liberté va permettre une communication et un don plus fort. Et la spécification du don, j'y tiens beaucoup à ça parce que je crois que la plupart du temps, les amitiés avortent dans un mariage tragique. Parce qu'on se place dans un point de vue trop psychologique et qu'au fond, on aime l'autre parce qu'il nous aime. Et quand vous aimez l'autre parce qu'il vous aime, si à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, vous êtes piqué par une mouche, ça peut arriver. Alors, vous avez l'impression qu'il ne vous aime plus de la même façon. Alors, immédiatement, à ce moment-là, vous l'aimez moins. Tandis qu'au contraire, il faut toujours que l'ami soit gardien de l'amour de son ami, et les gardiens de l'amour de son ami dans la mesure même où il aime l'autre pour lui-même. Ça, c'est très dur. Et ça, c'est l'amour. On cherche une voie dans l'amour. C'est une conquête constante. Et je crois que cet élan de l'amour qui est une conquête constante. On doit conquérir l'autre dans le sens profond, c'est-à-dire on l'aime pour lui-même. Oui.
Justement, dans cette mesure où il est gardien, s'il voit son ami jouer une autre amitié qui le libère et lui fait du bien, il n'y a pas d'exclusivité. Si l'amitié est pour
prendre. Oui, mais alors c'est.
Si l'ami joue une amitié qui est.
Oui, tout à fait. Mais ça, alors qu'est-ce qu'il fait là? C'est le conseil. Parce qu'il n'a pas d'autorité, il exerce un propre conseil.
Oui, mais c'est.
Fais attention. Tu te connais bien, dès que tu vois une fleur sur un lac, tu te précipites. Tu n'as déjà pas vu, tu t'es déjà tombé trois fois dedans. Tu commences à alors on donne un conseil qui peut être véhément. C'est pas la jalousie. C'est pas la jalousie, c'est l'amour de l'autre. Parce qu'on ne veut pas que l'autre perde du temps. Et on sait très bien, on connaît. On connaît qu'il est toujours comme ça, parce qu'on se connaît dans l'amour d'amitié. On sait très bien qu'il faut une qualité. Nous sommes Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Rappelez-vous encore, il y a le sujet de la bonne famille qu'on a laissé de côté, et puis il y a la liberté religieuse. On n'a pas vu. Et la liberté par rapport aussi, par rapport à la providence. Sont des sujets qui ont été traités par les stoïciens. C'est des sujets proprement d'éthique religieuse.